Chaud devant, un Saint-Pierre pour la 3, une religieuse pour la 7 et une bouteille de Saint-Émilion pour la 12.
Moïse en entrée,
Jésus au dessert,
et comme plat principal,
Jésus était-il juif ou chrétien ? Salut Marc.
Salut Samuel. Dis-moi, je me pose une question.
Vas-y.
Jésus, il était juif ou chrétien ?
Marc, Jésus, il a vécu en Palestine, pour être plus exact, dans le nord du pays, en Galilée, au sein d'un judaïsme en pleine effervescence.
Oui, et sa mère et son père adoptif étaient juifs.
Tout à fait. Mais le judaïsme de l'époque n'était pas exactement le judaïsme d'aujourd'hui. Imagine, la Judée est soumise à des princes romains, et cette domination politique pèse aux juifs.
J'imagine, vivre avec des personnes qui vous dominent, ça doit être dur.
Ce qui pèse davantage encore est la cohabitation avec des païens, romains, mais pas seulement. Les juifs, en effet, s'ils sont majoritaires en Judée, ne le sont pas partout. Et par exemple, pas dans les villes de la côte comme Jaffa ou Césarée. Puis il y a beaucoup de notables, des gens aisés, qui sont séduits par le modernisme et les innovations grecques. Ces innovations semblent à certains juifs mettre le judaïsme en péril. À l'époque de Jésus, de plus en plus de juifs se métissent culturellement avec l'hellénisme. Cela amène des réactions très vives dans les milieux les plus pieux.
Oui, et les pharisiens et certains esséniens se coupent du monde et se retirent au désert pour ne plus avoir à côtoyer les païens.
Il y a donc à cette époque une agitation permanente avec, de la part de certains juifs, une crispation sur les règles de pureté juive, sur la loi, sur la Torah. Et c'est dans ce contexte qu'apparaît Jésus.
Oui, et quand on lit les évangiles, il semble que Jésus se conduise comme un juif pieux. Il respecte l'essentiel des règles juives. Et même dans certains passages, il semble aller plus loin que la loi. Et dit qu'il est venu pour respecter d'autres règles. Cela dit, c'est déjà ce que disent certains pharisiens libéraux. Pour qui respecter la Torah sans respecter d'abord la charité n'est pas logique. Et puis parfois, Jésus est très dur avec les non-juifs.
Jésus semble avoir des accommodements par rapport à la loi. Mais dans le judaïsme, il y a une multitude de jugements et d'interprétations. Qu'il prenne donc ses libertés ne peut choquer personne.
Donc Jésus est né juif, il a été circoncis comme un juif, il s'est comporté comme un juif, il est mort juif et il est ressuscité...
Pour le salut du monde.
Mais, alors d'accord, Jésus était juif. Mais alors comment est-ce qu'on est passé de la religion juive à la religion chrétienne ? En 33, au moment de sa mort, Jésus était juif, comme ses disciples. Alors quand, comment et pourquoi cette secte juive se sépare-t-elle du judaïsme pour former une nouvelle religion ?
Comme tu l'as dit, les premiers convertis étaient tous juifs. Groupés autour des 12 apôtres, ils formaient une secte à l'intérieur du judaïsme. Ils fréquentaient le temple, célébraient les fêtes, observaient le sabbat et les jeûnes. Ils faisaient circoncire leurs enfants. Ils se distinguaient par la foi en Jésus comme Messie, fils de Dieu, mort et ressuscité, élevé au ciel et fait Seigneur et Christ. Ils exigeaient le repentir et la conversion pour avoir la rémission des péchés en attendant le salut. Et les judéo-chrétiens, ils gardaient l'enseignement de Jésus et des apôtres.
T'as parlé des judéo-chrétiens ? C'est quoi ?
On parle d'eux à propos de l'institution des sept. Lis les actes des apôtres au chapitre 6.
En ces jours-là, comme le nombre des disciples augmentait, il y eut des murmures chez les hellénistes contre les hébreux. Dans les services quotidiens, disaient-ils, on négligeait leurs veuves. Les 12 convoquèrent alors l'assemblée des disciples et leur dirent « Il ne sied pas que nous délaissions la parole de Dieu pour servir aux tables. Cherchez plutôt parmi vos frères 7 hommes de bonne réputation, remplis de l'esprit et de la sagesse, et nous les préposerons à cet office. Quant à nous, nous resterons assidus à la prière et au service de la parole. »
Même si ce n'est pas notre sujet, ce texte, c'est le texte de l'institution des diacres. Mais reprenons. Donc, dès le début, les judéo-chrétiens, c'est-à-dire les juifs qui croient que Jésus est le Messie, sont composés de deux groupes, les hébreux et les hellénistes. Les hébreux, ce sont des juifs, ils parlent araméen. Ils sont de culture sémite, ils forment un groupe autour des apôtres, Pierre en est le porte-parole. Par la suite, Jacques sera le chef du groupe. Leur vie religieuse est très liée au temple et leur mission semble se limiter aux juifs. Les hellénistes, ce sont aussi des juifs, mais ils sont de culture et de langue grecque. Ils vivent en diaspora, ils sont dispersés dans le bassin méditerranéen. Mais ils vivent aussi à Jérusalem. Les hellénistes, ils sont missionnaires, ils s'ouvrent à ceux qui les entourent. C'est à cause d'eux que commence le processus de rejet des chrétiens, et la première persécution menée par les juifs les concerne particulièrement. Ils partiront en mission en Samarie, évangélisés par Philippe, à Damas, puis à Antioche de Syrie, où ils évangéliseront les païens.
D'accord. Donc, au début, les chrétiens ne sont que des juifs. Ce sont ce que tu as appelé les judéo-chrétiens, que ce soit des hébreux ou des hellénistes. Et c'est Pierre qui dirigeait l'église.
Oui, Pierre. Jacques et Jean, puis Paul.
Ah, donc ils étaient plusieurs.
Reprenons avec nos deux courants judéo-chrétiens. Les Hébreux étaient des Juifs originaires de Jérusalem ou de la Palestine, parlant araméen et stricts observateurs de la loi. Les Hellénistes, ils étaient les Juifs de la diaspora à Jérusalem. Il y en avait un grand nombre. Ils avaient leur synagogue, ils parlaient le grec. C'était de langue et d'éducation grecque. Donc, les hellénistes comprenaient la loi d'une façon plus humaine, plus universaliste et plus morale. Ils n'avaient pas au même degré la haine de l'étranger. D'ailleurs, les 7 diacres choisis par les 12 apôtres, à en juger par leur nom, semblent avoir été des juifs hellénistes.
Oui, dans les Actes des Apôtres, au chapitre 6, donc, on parle d'Étienne, Philippe, Procore, Nicanore, Timon, Parménas et Nicolas. C'est pas très hébreu comme nom.
Alors, Saint-Étienne, il a été lapidé parce que son discours adressé aux Juifs représentait la tendance judéo-chrétienne hellénistique. Il leur reprochait de n'avoir point compris la notion d'un culte spirituel et universel et de rester attaché au particularisme et au formalisme légal. Ce furent les hellénistes qui répandirent la foi dans la Judée, la Samarie et jusqu'en Phénicie, dans l'île de Chypre et à Antioche. Moins formalistes à l'égard de la loi que les Hébreux de Jérusalem, ils étaient qualifiés pour être des agents de l'expansion chrétienne auprès des Juifs de la diaspora et surtout auprès des Grecs. Puis maintenant arrivent les problèmes.
Les problèmes ?
Oui, le centurion Corneille.
C'est qui ça, le centurion Corneille ?
C'est un Romain, un non-juif, un païen. Et ce fut la première recrue faite chez les païens.
C'est donc pas un judéo-chrétien ?
Exactement. Il s'agit maintenant de l'intégration des pagano-chrétiens.
D'accord. Mais ces païens là, qui vont se convertir au judaïsme, là, le centurion Corneille, il devait suivre les commandements du judaïsme, la loi, la Torah ?
C'est bien tout le problème qui se pose. Est-ce qu'il fallait admettre les païens à un rang d'égalité avec les juifs ? Ou est-ce qu'il fallait leur imposer la circoncision, la loi ? Cette question a donné lieu à un grave conflit qui a abouti à la crise des judaïsants.
Vas-y, raconte.
Alors Corneille, c'est un centurion romain, un craignant Dieu, ou judaïsant.
Ça veut dire qu'il partage les idées religieuses des juifs, bien que n'étant pas juif ni circoncis.
C'est ça. Et Dieu envoie Pierre à sa rencontre. Et Pierre lui dit.
Je constate en vérité que Dieu ne fait pas exception des personnes, mais qu'en toute nation, celui qui le craint et pratique la justice lui est agréable.
Puis, plus loin,
Pierre parlait encore quand l'Esprit-Saint tomba sur tous ceux qui écoutaient la parole. Et tous les croyants circoncis qui étaient venus avec Pierre furent stupéfaits de voir que le don du Saint-Esprit avait été répandu aussi sur les païens. Alors Pierre déclara, « Peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu l'Esprit-Saint aussi bien que nous ?»
Alors ça va imposer beaucoup de problèmes à Pierre. Parce que lorsqu'il va revenir, il a été interrogé par les apôtres et les frères de Judée. Pourquoi es-tu entré chez des incirconcis et as-tu mangé avec eux ? Et après avoir expliqué toute l'affaire, ils arrivèrent à la conclusion suivante. Ainsi donc, aux païens aussi, Dieu a donné la repentance qui conduit à la vie.
Donc la question est réglée. Les païens peuvent être sauvés.
La question n'est pas réglée. Les païens doivent-ils suivre les lois ? Est-ce qu'ils doivent être circoncis ? Ça amène aux incidents d'Antioche et de Jérusalem. Lis chapitre 15 des Actes des Apôtres.
Cependant, certaines gens descendus de Judée enseignaient aux frères. « Si vous ne vous faites pas circoncire suivant l'usage qui vient de Moïse, vous ne pouvez être sauvés. » Après bien de l'agitation et une discussion assez vive engagée avec eux par Paul et Barnabé, il fut décidé que Paul, Barnabé et quelques autres des leurs montraient à Jérusalem auprès des apôtres et des anciens pour traiter ce litige.
Donc, comme tu le vois, problème.
Et alors ?
Paul et Barnabé exposent le problème et c'est Jacques qui répond.
Quand ils eurent cessé de parler, Jacques prit la parole et dit « C'est pourquoi je juge, moi, qu'il ne faut pas tracasser ceux des païens qui se convertissent à Dieu, qu'on leur mande seulement de s'abstenir de ce qui a été souillé par les idoles, des unions illégitimes, des chairs étouffées et du sang. Car Moïse, depuis les temps anciens, a dans chaque ville ses prédicateurs qui le lisent dans les synagogues tous les jours de Shabbat. » Donc, pas de circoncision et un nombre de lois restreint.
Tout à fait. Cependant, entre les judéo-chrétiens et les pagano-chrétiens, le fossé va inévitablement se creuser. On retrouve un problème dans l'Épître aux Galates, où à Jérusalem, Pierre et Paul se font face. Quelques-uns de la secte pharisienne qui avaient cru tiennent le même langage que les judaïsants d'Antioche. Paul les désignera dans l'Épître aux Galates sous le nom de faux frères intrus qui s'étaient glissés pour épier la liberté qu'il avait dans le Christ Jésus.
Comment ça se fait ?
Pierre avait du mal à manger avec des païens convertis qui ne suivaient pas les lois. Il avait honte par rapport aux judéo-chrétiens qui ne se mélangeaient pas aux gentils.
Et alors, ils arrivèrent à une conclusion ?
Plutôt une répartition. Il fut convenu par la suite que Jacques, Pierre et Jean prêcheraient aux circoncis, Barnabé et Paul aux païens.
Donc, les judéo-chrétiens suivent les lois et pas les pagano-chrétiens.
Les judéo-chrétiens de Palestine continuent d'observer scrupuleusement la loi. Jacques, leur chef, était encore vers l'an 50 associé à Pierre et à Jean, mais en 58, il semble bien être le seul dirigeant. Son zèle pour la loi et sa piété lui avaient conquis l'estime de tous, même des juifs non convertis. Mais malgré l'attitude conservatrice de l'église mère, les juifs palestiniens furent de plus en plus hostiles au fur et à mesure qu'elle s'organisa en communauté indépendante. Et c'est vers l'an 52 que l'opposition se transforma en une persécution violente dont Jacques le Juste fut la victime.
Et en 70, c'est la destruction du Second Temple, suite au siège de Jérusalem par Titus.
Et oui, c'est un tournant dans l'histoire du judaïsme et dans l'histoire des relations entre les juifs et les chrétiens. L'événement provoqua un choc terrible. Le lieu de la présence de Dieu, le lieu de la réconciliation, le lieu autour duquel se forgeait l'unité nationale, disparaît dans les flammes. Après ce drame, l'identité et la cohésion des communautés juives vont, au cours des décennies qui suivent, progressivement se reconstituer à Jamnia, autour de la Torah, grâce à Yohanan ben Zakkai.
Oui, et on avait vu que c'était lui qui établit le canon des écritures juives.
Mais pas seulement, il exclut les mouvements marginaux et sectaires.
Et je suppose, au premier rang duquel figurent les chrétiens.
Vers 90, deux positions s'offrent à eux. Soit rester judéo-chrétien dans un environnement juif hostile à la foi chrétienne, c'est le choix de la communauté de Jérusalem qui a échappé à la vindicte romaine de 70, soit se couper du judaïsme et notamment de sa ritualité alimentaire et chercher sa voie dans la mission païenne.
Donc pas facile pour les judéo-chrétiens.
En plus, les communautés chrétiennes vont mener un travail de canonisation et de normalisation équivalent à celui qu'ont entrepris les rabbins pharisiens dans le judaïsme. Et si au départ les communautés sont encore à certaines conditions reconnues et intégrées à la grande église, elles apparaissent franchement sectaires à Saint Jérôme au début du 5e siècle.
Donc au départ, il y a des christianismes. D'abord des courants judéo-chrétiens, dirigés par Jacques, puis des courants pagano-chrétiens, plutôt dirigés par Paul. Au 2e siècle, les pagano-chrétiens l'emportèrent progressivement sur les judéo-chrétiens. Le mouvement prit de plus en plus l'allure d'une nouvelle religion, séparée du judaïsme. Ces judéo-chrétiens, marginalisés par les chrétiens, furent rejetés par le nouveau judaïsme qui se reconstruit après la guerre de 70. Eh ben ça en fait des choses tout ça.
C'était Moïse en entrée,
Jésus au dessert,
une émission dans la dynamique du Festival de la Parole,
présentée par Samuel et Marc Landon.
Plat du jour de la semaine prochaine,
le Festival de la Parole.